C'est mercredi, il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir sur Radio, nous vous proposons un entretien avec le comédien et écrivain Richard Bohringer, rencontré lors du Salon du Livre de Migennes qui s'est tenu le 9 octobre dernier. Richard Bohringer est français et sénégalais depuis 2002. Il est né le 16 janvier 1942 à Moulins. Il débute sa carrière au théâtre à la fin des années 60 et c'est en 1981, grâce au film Diva de Jean-Jacques Benex, qu'il s'impose au cinéma. Il devient l'un des acteurs les plus marquants des années 80, remportant 2 Césars pour L'Addition et Le Grand Chemin. On le remarque aussi bien chez Luc Besson dans Subway que chez Gérard Jugnot dans Une époque formidable, confirmant ses talents de comédien. En 1992, le père et la fille, Romane, sont réunis dans L'Accompagnatrice par Claude Miller. Richard Bohringer a connu une longue période difficile, des problèmes de drogue, d'alcool et d'argent, des épisodes violents. Autant de combats à livrer qu'il raconte dans son best-seller « C'est beau, une ville la nuit » paru en 1988 et dont il a tiré un film du même nom sorti au cinéma en 2006. Mentionnons également « Le port intime des rivières » paru chez De Noël en 1995 et « Carnet au Sénégal » qui évoque ses voyages. Il sort en 2006 « Oublie que je t'aime », un livre autobiographique désormais disponible en poche, collection J'ai lu. Et nous l'avons donc rencontré à Migennes le 9 octobre dernier pour son dernier roman paru chez Flammarion, dernier roman intitulé « Les nouveaux contes de la cité perdue ». J'ai donc demandé, pour ouvrir cet entretien, j'ai demandé à Richard Bohringer si Migennes n'était pas un peu trop petit pour une grande figure comme lui.
Il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop petit.
C'est un homme de tous les espaces.
Ouais, exactement, et en plus, ils m'ont gentiment demandé, et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas venu ici.
Alors, Antoine Blondin, vous le connaissez bien, c'est un peu votre mentor, c'est quelqu'un que vous aimez bien.
Ah ça, vous avez vu ça sur Internet.
Oui, c'est faux, vous confirmez.
Non, c'est vrai, oui.
D'accord,
oui.
Alors, vous savez qu'il a écrit « Tous les livres sont une lettre adressée à un ami ». Vous avez comme ça, le tout dernier, il est adressé à vos 4 enfants. Et c'est un livre que votre éditeur présente comme le livre peut-être d'un Richard Bohringer extrêmement engagé. Alors est-ce que c'est l'actualité brûlante aux 4 coins du monde, la politique en France, le monde qui devient un peu fou, le monde de la finance, le monde qui perd sa morale? C'est pour cela que Richard Bohringer reprend la plume et peut-être s'engage de plus belle?
Je ne reprends pas la plume, je ne l'ai jamais quitté.
Oui, mais un livre, c'est toujours un renouvellement. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est un nouveau défi, une nouvelle aventure.
Il n'y a pas de défi, non. L'écriture n'a pas besoin de défi. L'écriture, c'est une chose sacrée, c'est une chose vivante, l'écriture. Les mots, c'est vivant, les mots. Il faut faire gaffe avec les mots.
Il en est beaucoup question d'ailleurs de l'écriture à travers les personnages donc de votre dernier livre qui s'intitule « Les nouveaux contes de la cité perdue ». Les nouveaux contes de la cité perdue, c'est aussi le titre d'un livre à venir, c'est le livre que Thierry John arrivera peut-être à écrire. On ne sait pas d'ailleurs s'il va réussir à l'écrire.
Mais il est écrit.
Oui, mais le livre est très surréaliste, le décor est surréaliste, puisque pour présenter Thierry et Polo sont des amis, au point même que c'est une amitié presque fusionnelle. Vous écrivez même, vous parlez même d'amitié éternelle. Et on peut dire qu'ils se sont exilés, ils se sont réfugiés dans un lieu utopique, dévoré par la végétation ou dévoré aussi par une canicule omniprésente. Un lieu étrange où, entouré de marécages, de flaques marécageuses, où les reptiles ont élu domicile dans les canalisations, la raison pour laquelle il y a des hommes torse nus qui chassent...
Les hommes torse nus, c'est la représentation des prolétaires, des travailleurs.
Oui, moi j'ai pensé aussi que c'était une sorte de nouveau défricheur.
Non, non, c'est les travailleurs, c'est les grands travailleurs d'une société, ouais. C'est les hommes torse nus.
Ces hommes torse nus, donc c'est eux qui doivent effectivement construire cette cité idéale où se sont réfugiés, Thierry et Polo.
Non, c'est pas, ils sont pas réfugiés.
Ils ont quitté en tout cas les territoires anciens.
Un jour, ils ont rencontré un mec dans un bistrot qui était barbu, qui s'appelait Jésus.
Oui.
Et qui leur a dit, là-bas, il y a une possibilité d'une existence plus humaine, et ainsi de suite. Donc ils ont pris la route, comme des milliers d'autres, ils ont pris la route pour rejoindre cet endroit. Et là, effectivement, il y a un passage initiatique quand même, parce qu'on ne peut pas accéder aux choses, ni à la spiritualité, ni à l'universalité, sans qu'il y ait une initiatique, quoi. Quand même, donc, cette initiatique passe par cette tempête terrible annuelle, où il y a une création de mutants, d'hybrides, qu'il faut combattre après, et ainsi de suite. Et puis de nouveau, la Terre redevient paisible et magnifique. Donc voilà, il y a une initiatique. Au bonheur, il y a une... Enfin, au bonheur. Ça veut dire à l'équilibre d'une société, à sa justice, il y a forcément... comment dire, il y a une initiatique, quoi, c'est tout. C'est sûr, évidemment.
S'il te plaît, je voudrais aller bien vu dans la lampe d'Aladin, je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons, et je t'aime, caresse-moi. C'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime, caresse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours de pluie, ça me fait bien rire. Caresse-moi.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
On reprend sur ce pays, ce lieu utopique. C'est un pays qui ne ressemble pas au nôtre, ce territoire nouveau. C'est un pays de fraternité. Ah bah, la fraternité, elle a quand même un peu disparu, et même si elle est sur la devise de notre belle République.
Non, non, c'est oui, c'est effectivement la possibilité d'espérance. C'est effectivement la possibilité, voilà, l'espérance que l'anathème ne soit pas sérieux, quoi. Que... Moi, je crois au sérieux de cet anathème. Je crois profondément que nous renaîtrons de nos cendres.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait tout détruire pour reconstruire quelque chose d'idéal?
Je pense que tout va se détruire.
Oui. Vous pensez qu'il va...
Je pense que tout
ça va imploser.
Oui, oui, mais ça ne sera pas comme ça. C'est pas la terre. Ça va pas être la... D'abord, on n'a pas fait attention ces dernières décennies au fait que la nature est indépendante. La nature, elle ne nous appartient pas. Elle a ses propres ordres. Elle réagit, elle régit sa vie, la nature, selon. On a tous cru, on a cru, enfin disons, qu'on a, on a considéré que la nature comme notre propriété, et d'une certaine façon, on a cru l'avoir domestiquée, et enfin, non, la nature, personne ne l'a domestiquée, elle est indépendante, elle est puissante, c'est la force la plus puissante de toute l'histoire. La nature, elle est maîtresse du jeu, la nature. Moi, je l'aime, je suis animiste, donc la nature, pour moi, chaque caillou a une âme. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire le truc, mais je ne suis pas un écolo, moi, je suis un animiste. C'est différent. C'est que les écolos, ils ne parlent pas de la nature en tant qu'âme. Moi, la nature, c'est l'âme.
Et c'est pour ça que vous avez présenté cette société comme emmitouflée, recouverte par la végétation, où la végétation la domine. La pierre n'existe pas.
La pierre, elle a été becquetée par la végétation. Moi, vous savez, j'ai fait un truc en rentrant de chez moi, je voulais étonner un peu mes amis et surtout avoir à la maison un petit baobab. J'ai fait la pire des choses.
Qu'avez-vous fait ?
J'ai pris un petit baobab, il était grand comme ça, et je l'ai emmené en France. Le petit baobab, petit à petit, il a bien tenté de vivre, hein, parce qu'il est africain, il a du courage, quoi. Alors donc, il a bien tenté de vivre, sortir une ou deux feuilles et tout, mais c'était trop dur pour lui, trop dur. Donc il est mort, le petit baobab. Et donc il est devenu comme un bout de fer, tellement... Et j'avais honte d'avoir fait ça. J'avais honte, mais très honte. J'ai gardé donc ça. Et quand je suis reparti chez moi là-bas, j'ai dit à Moussa, j'ai dit, viens, on va aller le mettre dans la savane, à côté d'un grand baobab. On est parti avec les camions, et ce bout de bois, c'était un bout de bois noirci, dur, c'était plus rien. 2 mois après, Moussa, il m'appelle. Je suis rentré en France. Il m'appelle, il me dit, pars. C'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne savais même pas qu'il a... Il me dit, c'est incroyable. Il a repoussé, il est vivant, pas. Je dis, quoi ? Il me dit, il est vivant. Et il était content. Parce que... il ne me l'avait pas dit quand j'étais parti avec le baobab, mais... Ça lui fendait l'âme, il savait bien que le petit baobab, il n'aimerait pas le pays où je l'emmenais, il le savait bien. Et là, baobab, il a, je sais pas, il a, ouais, il a bien 2 mètres de haut, ça ne sera jamais un grand baobab, mais c'est un vrai baobab.
Il y en a un baobab d'ailleurs, à côté du bar de Polo, dans votre roman. Ouais. Hein, alors, le bar s'appelle « Au bout du monde ». Alors justement, on va peut-être un petit peu y revenir au bar. On sait que dans C'est beau une ville la nuit, vous racontez de manière autobiographique votre combat contre les excès, contre les addictions de tous ordres. Finalement, ce qu'on pourrait reprocher aux deux personnages dans votre roman, c'est qu'ils ne font pas grand-chose. Ce ne sont pas des hommes d'action.
Non, pas du tout.
Ils ne font rien. Mais ils ont l'air heureux comme ça, vous direz, c'est assez
plaisant. Non, ils ne sont pas heureux. Hein. Et Polo est peut-être plus heureux que...
Polo est moins torturé que Thierry John.
Mais, ouais... Si, ils créent. Ils font beaucoup, ils créent. Ils créent une nouvelle société, ils créent...
Mais ils ne participent pas au gouvernement.
Non, mais ils veulent
ils
pas.
Mais
non,
ils veulent pas. Ils sont pas. Dans leur bar à partir de 17h et ça donne à l'ivresse.
Ils veulent pas du tout participer à la politique et ainsi de suite. Ils ont construit déjà. C'est leur œuvre. La cité perdue, c'est leur œuvre. Oui. C'est eux. C'est eux qui ont cru en Jésus, ce barbu qu'ils ont rencontré dans le fond d'un bistrot. C'est eux qui ont construit la cité perdue. Les grands territoires, les grands nouveaux territoires. Donc, voilà, ils ont combattu, ils combattent les hybrides, ils combattent tout ça, non.
Ils se battent aussi pour eux. Ils essaient de trouver le mode d'emploi d'une vie sereine et heureuse. Parce que malheureusement...
Polo, il a plus... C'est John qui est en perdition. C'est John qui est... qui est partagé entre le désir d'une femme et le désir d'écrire...
D'une œuvre aussi, oui.
D'une œuvre, et c'est bien l'œuvre qui lui pose le plus de problèmes, bien sûr, évidemment. La femme, elle lui pose beaucoup de problèmes aussi, mais...
Il faut dire qu'il a eu des mauvaises expériences, parce que par deux fois, les femmes l'ont quitté, parce que quelque part aussi, votre Thierry John, on va dire Thierry dans ce coup-là, Thierry, en fait, il n'a pas assez pratiqué le sexe avec les femmes, il est trop lunaire. Et vous écrivez que les femmes, elles veulent le soleil. Or, lui, il est lunaire, et finalement, il y a le thème de la nuit aussi, qui est omniprésent.
Ouais, les femmes, elles veulent ce qu'elles disent pas, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'elles disent pas. Et quand tu sais ce qu'elles disent pas, t'es forcément plus proche d'elles.
Mais est-ce qu'on peut dire que Thierry a raté sa vie? Parce qu'il a tout de même 69 ans. Il a été un acteur très populaire qui a flingué sa carrière. C'est tout le contraire de vous. Vous n'avez pas flingué votre carrière. La preuve, elle continue par le biais de l'écriture. Mais Thierry a la même date de naissance que vous. Il a la même date de naissance que vous.
C'est curieux.
C'est bizarre.
Pas fait gaffe. Vraiment, sérieusement, j'ai dû chercher une date et puis mettre celle-ci. Mais... C'est bien que vous me le...
Non, mais vous en êtes conscient quand même.
Oui, oui,
on
oui,
est d'accord. Donc il vous ressemble quand même, ce Thierry.
Oui.
Il a le même âge que vous.
C'est pas Thierry qui me ressemble, c'est John.
C'est John. Ah, est-ce que vous pourriez expliquer justement la différence entre Thierry et John? John, c'est plutôt l'aventure. Non. Thierry, c'est celui qui a besoin d'être sécurisé.
Thierry, il prendra aucun risque dans
Thierry,
la vie.
Thierry, il a besoin de garde-barrière, il a besoin de sécurité. Voilà. John, c'est celui
qui n'a
c'est
pas
celui qui a l'audace.
Qui n'en veut pas de barrière. Merci beaucoup, belle après-midi. Qui n'en veut pas de barrière.
Fallait pas faire la belle en cuir et dentelle. Fallait pas faire rouge baiser pour les attirer. Sous les abribus qui pleurent des amours. Terminus, il y a des vies.
Radion, au cœur de la Bourgogne.
Alors c'est quoi l'immense savoir de l'ivresse?
Oh là là,
Charles Boringer, c'est quoi l'immense savoir de l'ivresse que partagent en commun Thierry et Polo dans leur bar, au bout du monde, dans la 300e.
Et moi, l'immense savoir, ça ne peut pas se dire comme ça, ça ne peut que se vivre. C'est pas... Il y a un grand savoir de l'ivresse, évidemment. C'est pas un truc de touriste, l'ivresse.
Et ça permet quand même aussi de fuir la peur de la page blanche.
Non, c'est pas la peur de la page blanche, je s'en fous. Non, moi j'ai jamais eu peur de la page blanche. Non, il y a des choses un peu plus... Non, moi je participe pas de ce truc, de la peur de la page blanche. Je participe pas du tout de ça.
Je reviens au personnage de Polo dans votre roman. Donc ouais. Il aime écrire son but, lui. Il rêve d'Afrique. Et il est l'éructeur. Pourquoi l'éructeur? C'est pas très, noble, un éructeur.
Si, c'est noble, un éructeur.
C'est un sculpteur de phrases, mais un éructeur, il y a quelque chose de grossier, c'est grossier.
Non, c'est pas grossier, c'est vous qui pensez ça. C'est parce que vous aimez pas les beaufs. Moi, je suis un beauf. Donc je suis un éructeur. Ça veut dire que j'ai... éructer, c'est... Oui, non, mais je sais. Mais vous venez d'ici ou vous venez de Paris, vous?
Je suis d'ici.
Bah alors, théoriquement, c'est à Paris. C'est là où il y a tous les cons qui ont de la vanité, qui disent que éructeur, c'est...
Non, mais...
Pour moi, un éructeur, c'est quelqu'un qui... C'est une forme de tribun, mais au lieu d'être à une tribune, il est à un comptoir, à un zingue.
Non, mais je prends acte.
Prenez acte.
Je prends acte, cher Richard Boringer. J'aimerais, Richard Boringer, qu'on revienne un petit peu sur le thème de l'ivresse. Vous me disiez précédemment que l'ivresse ne permet pas de fuir la peur de la page blanche. Vous parlez de l'alcool.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah si?
Non, j'ai pas dit ça.
Ah, je vous ai mal compris alors.
Ah oui, j'ai dit que j'avais pas peur de la page blanche.
Ah d'accord. Mais l'alcool peut être aussi une fuite par rapport à beaucoup de choses. On peut boire pour fuir beaucoup de choses.
Oui, mais tout le monde fuit l'alcool. Oui, l'alcool, c'est chiant, l'alcool. Mais c'est vrai qu'il y a des moments avec l'alcool où la fraternité, où les gens inhibés se désinhibent, les gens qui n'osent pas parler de leur chagrin, ils ont un coup dans le nez, ils se laissent aller, ils se déversent, etc. C'est un moment très humain, alors c'est chiant parce qu'après, après ça se gâte, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'alcool parce qu'ils étaient trop timides.
C'est ce que je vais faire.
Et vous écrivez, l'homme qui boit, c'est aussi l'homme qui boite.
L'homme qui boit et l'homme qui boite, oui.
Merci beaucoup.
Bien sûr.
Dans C'est beau une ville la nuit, vous écrivez « Fallait bien remplacer papa, mon papa à moi, c'était le bar. »
C'était le bistrot. Ouais, et alors? Et
est-ce que le bistrot, c'est indispensable dans une existence? Parce que même dans un lieu idéal, Polo et Thierry sont obligés de se retrouver au bistrot. Le bistrot aurait pu disparaître du lieu idéal.
Mais non.
Bon, c'est un ministère de la culture, le bistrot.
Mais évidemment que c'est le ministère de la culture, évidemment. Évidemment, c'est le ministère du peuple, le bistrot. C'est là quand on a mal, c'est là où on a le plus de chances de rencontrer d'autres gens qui ont mal, et on va s'auto-penser, quoi, quelques heures, le temps de quelques coups, quoi. Après, évidemment, voilà, mais le bistrot, c'est
une thérapie.
C'est l'étable. Non, c'est pas une thérapie. C'est l'étable. C'est là où Jésus est né. Le bistrot, c'est...
Ça vous plaît, ce Jésus, dans le roman, d'avoir mis Jésus,
ah,
le barbu...
Non, mais moi, c'est mon pote, Jésus.
C'est un syndicaliste.
Jésus,
dans le roman,
c'est
un syndicaliste.
Jésus,
Enfin, il a défendu des gens qu'on...
Dans ce livre, c'est un syndicaliste, mais dans la vie, Jésus, c'est le premier socialiste du monde. Pas socialiste François Hollande, hein. Je dis vraiment socialiste. Vraiment à gauche, quoi.
Vous savez pour qui vous votez l'année prochaine?
Je suis très emmerdé, je vous remercie.
Et vous savez pour qui vous ne votez pas?
Oui.
Oui. Pour qui vous ne votez pas l'année prochaine?
Pour le président.
Vous ne l'aimez pas?
J'ai pas... Non, j'ai pas une très grande sympathie pour lui, non. Non, mais c'est pas parce que je suis de gauche hein, que je n'ai pas de sympathie pour lui. J'ai pas de sympathie non plus pour ceux qu'on va élire à gauche. Hein.
Mais quand vous parlez des anciens territoires dans votre roman qui sont dominés par l'ambition, l'argent roi, il y a même des habitants Rolex.
Ouais.
C'est toute la France un peu du Fouquet.
C'est la France du Fouquet, c'est la France de d'en haut.
Oui, mais Richard Bohringer, avec les cachets qui ont été les vôtres, il fait partie de cette France d'en haut quand même.
Comment?
Avec les cachets qui ont été les vôtres, il fait partie de cette France
non,
qui avait de l'argent.
Jamais...
Pardonnez-moi cette question, mais...
J'ai jamais...
Il n'est pas démuni, Richard Bohringer.
Mais non, mais c'est le problème, il n'est pas là.
Il n'est pas de Rolex, vous.
Non.
Ni Mont Blanc.
Ni Mont Blanc, ni. J'ai pas de bagnole, j'ai pas de résidence secondaire. Non.
Et moi je vous crois, Richard Bohringer, vous me regardez avec ça.
Vous voyez là, à mon poignet, j'ai que le bracelet de mon village. C'est le type. C'est le bracelet qui appartient à cette ethnie.
C'est que vous êtes sénégalais, rappelons-le bien,
et là,
et français.
Et là, j'ai les drapeaux de ma double nationalité. C'est voilà ce que j'ai. Vous voilà.
N'êtes pas un homme attaché aux choses matérielles?
Ah non, pas, non, non, pas, non. Non, sérieusement pas.
L'esprit domine.
L'esprit domine. L'esprit domine et... Non. Non, j'ai pas fait ça, moi. J'ai sécurisé ma famille, ma belle famille, j'ai sécurisé tous ceux qui avaient besoin d'être sécurisés, mais moi, je... J'ai fait aussi beaucoup de trucs, mais j'ai pas envie d'en parler, voilà.
Mais est-ce que, comme John, vous avez avec lui en commun des sentiments d'échec, la peur de la vieillesse, la peur de l'absence de l'inspiration? Vous avez cela en commun avec lui?
L'inspiration, oui, j'ai peur, oui. La vieillesse, j'aime pas ça. J'aime chez les autres, mais je l'aime pas chez moi. Alors. Chez les autres, j'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'attention. Mais chez moi, je ne la supporterai pas.
C'est que c'est...
contactez Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Alors vas-y.
Faut que je continue les questions.
Ouais.
Vous aimez les questions. Bon. On revient sur la difficulté de trouver l'inspiration. Finalement, en tant que créateur, vous trouvez les mots uniquement pour la réalité ou uniquement pour l'invention? Ce roman qui dénonce la société et le monde dans lequel on vit, qui devient un peu fou et qui devient très inquiétant, c'est le roman peut-être le plus sérieux? Là, vous écrivez, c'est l'histoire, c'est le prétexte à une invention?
Tout est sérieux. Tout est sérieux et grave, tout est gai et profond, je veux dire, dans la vie. Il n'y a pas de science exacte de l'humain et de sa pensée. Moi, j'ai une phrase comme ça qui est toute simple et qui... Je me lève con. J'ai toute une journée pour m'améliorer. Et il y a des fois, je me recouche aussi con que je me suis levé. Basta, c'est tout. C'est ça un humain. Il est tout le temps à volonté d'un... On meurt jamais achevé. On n'est pas fini quand on meurt. On est juste au bord de la connaissance. On touche à peine, on balbutie à peine la connaissance qu'on meurt. Donc on n'est jamais fini.
Impression sur ce salon de Migène.
Super. Super. Vous voyez?
C'est très, très
si laconique. Ben non, c'est pas laconique. La preuve, c'est que je peux pas vous parler tellement il y a de monde.
Oui, effectivement.
Bon, Jean-Paul.
Merci Richard Boringer.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Comme un papillon de, comme un papillon de, comme un papillon.
l'instant, sur Radion, vous aurez reconnu France Gall. Je rappelle le titre du roman de Richard Bohringer que vous avez pu entendre il y a quelques minutes dans Wagon Livre. Il s'agit donc des Nouveaux Contes de la Cité Perdue et c'est paru aux éditions Flammarion. Avant de vous laisser poursuivre votre soirée en compagnie du programme musical de Radion, quelques manifestations littéraires et culturelles en Bourgogne dans les jours à venir, et ce, en compagnie de Claude. Bonsoir Claude.
Bonsoir Yannick. Commençons par signaler quelques publications disponibles en kiosque ou maison de la presse.
Oui Claude, effectivement. D'abord, je signale, parce que je l'ai vu dans de nombreuses maisons de la presse dans Lyon, je signale donc l'apparition de Pays de Bourgogne. Le numéro 230 vient de paraître avec un excellent dossier consacré au labyrinthe, et puis bien évidemment on retrouve dans cette très belle revue trimestrielle que nous aimons beaucoup dans Wagon Livre, on retrouve les rubriques habituelles de ce magazine. Je mentionne aussi le numéro d'octobre et novembre 2011 du magazine En Bourgogne, qui propose un dossier sur les grands personnages qui ont fait la Bourgogne, un dossier aussi sur les risques de tremblements de terre en Bourgogne, un très beau magazine dont Gilles Platret, historien et le rédacteur en chef. Gilles Platret, nous avons eu l'occasion de le recevoir dans Wagon Livre pour évoquer son passionnant ouvrage consacré à l'histoire des loups en Bourgogne.
Une exposition à la bibliothèque intercommunale de l'Orme dans la Nièvre.
Oui, effectivement, nous sommes au sud de Lyon, à l'Orme, dans la Nièvre, où à la bibliothèque intercommunale sont exposés les tableaux de Johanna Emmans. Johanna Emmans, qu'on a déjà eu l'opportunité d'entendre dans Wagon Livre, c'est une artiste d'origine néerlandaise et il faut bien signaler qu'elle sera présente à la bibliothèque intercommunale de l'Orme le 14 décembre prochain à 16h, à la fois pour dédicacer son livre, Ainsi soit Noël, ainsi soit Pâques, une très belle idée de cadeau, et puis elle sera présente pour une lecture, un goûter, et bien évidemment on peut rencontrer l'auteur et se faire dédicacer son livre. C'est donc le 14 décembre prochain à la bibliothèque de l'Orme.
Une autre exposition, cette fois-ci à Dijon.
Oui, alors là, c'est une exposition consacrée au menu. Effectivement, on approche du temps des fêtes, Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et effectivement, jusqu'au 25 février prochain, se tiennent trois expositions au centre-ville de Dijon, à quelques minutes l'une de l'autre. D'abord, à la place du théâtre, à la Nef. Autre site, c'est au numéro 3 et au numéro 7 de la rue de l'École de droit. Et effectivement, sont exposés des menus, témoins de la vie quotidienne, de la vie locale et témoins aussi de l'histoire de France. Il y a également des menus de l'Élysée, des menus du paquebot Normandie, des menus sur soie, des menus publicitaires. Enfin, c'est un objet à rêver et à contempler. L'exposition s'intitule « Histoire de menus ». Potage, tortue, buisson d'écrevisses et bombes glacées, c'est jusqu'au 25 février de l'année prochaine.
Encore une exposition, cette fois-ci en Côte d'Or, à Semur en Auxois.
Oui Claude, effectivement, on reste dans le domaine de la gourmandise avec une exposition intitulée « Les grands cuisiniers au Moyen-Âge ». C'est donc à la bibliothèque municipale de Semur en Auxois, c'est jusqu'au 16 décembre prochain. Et cette exposition, consacrée donc aux grands cuisiniers au Moyen-Âge, propose des illustrations de Dominique Thibault. Alors Dominique Thibault, c'est une illustratrice jeunesse qui a fait paraître des livres dans de grandes maisons d'édition en France. Et Dominique Thibault réside dans cette belle cité médiévale de Semur en Auxois. Donc exposition jusqu'au 16 décembre prochain, les grands cuisiniers au Moyen-Âge.
À noter une conférence à Nevers ce samedi 10 décembre à 15h.
Oui, conférence animée par Pierre Marcotte, c'est à l'auditorium des archives départementales de la Nièvre et c'est une conférence qui est consacrée au folkloriste Achille Millien et à son œuvre, à redécouvrir donc ce samedi 10 décembre à 15h à l'auditorium des archives départementales de la Nièvre.
Et concernant le programme de Wagon Livre, mercredi prochain sur Radion.
Alors bonne question Claude, effectivement, mercredi prochain à 21h, je recevrai Françoise Duvernier,
conservateur en chef et directrice de la bibliothèque municipale d'Auxerre, nous évoquerons en sa compagnie l'exposition Colette qui se tient jusqu'au 8 janvier 2012 au cellier de l'abbaye Saint-Germain. Une exposition remarquable, Claude, avec une scénographie originale et attrayante. L'exposition s'intitule « Je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi ». Une exposition qui couvre les années précédant la Première Guerre mondiale jusqu'à la mort de l'auteur en août 1954. Merci Claude de nous avoir tenu compagnie en cette fin d'émission. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Douce nuit à l'écoute de Radion. Rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Au revoir Claude.
Au revoir Yannick.
Au revoir à toutes et à tous et merci encore. Thank you.
Thank you.